Alors, moi, je me demandais si, enfin, j'ai peut-être pas tout à fait bien compris. Est-ce qu'il y a eu d'autres vidéos qui ont été faites? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que cet exercice qui ont été proposées au visionnage? Je pensais en particulier à tout ce qui est leçon, parce qu'il me semble qu'en fait, le travail à la maison peut être totalement différent quand il s'agit d'un exercice ou lorsqu'il s'agit de l'apprentissage d'une leçon. Et dans ce cas-là, je me demandais si, dans votre recherche, vous aviez eu l'opportunité d'aborder tout ce qui était relatif à l'écriture des devoirs et à leur précision dans le cahier de texte, notamment par rapport justement à ce qui doit être appris, dans, par exemple pour une leçon. Voilà, j'avais d'autres questions, mais...
Par rapport à la première question, non, il n'y a pas eu d'autres éléments vidéo de proposer. Alors, ce qui explique aussi en partie le fait que les alternatives envisagées, il n'y en a pas énormément non plus, parce que effectivement, les enseignants les acteurs ont été confrontés juste à une partie des devoirs. Alors, par contre, j'ai envisagé ces questions-là dans le cadre de la thèse, et notamment la relation, et j'y reviens là, entre la question de la leçon et de l'exercice. Alors, dans ce que vous posez, si j'ai bien compris, il y a ce que les enseignants peuvent attendre d'un travail, et là, en l'occurrence, on le voit, dans ce qu'il écrit, il y a revoir la leçon, je ne sais plus comment c'est formulé, mais il y a leçon et il y a exercice. Il ne le commande pas du tout en autoconfrontation, ce qui me fait dire, et ça, à mon avis, c'est relativement... je pense que c'est assez généralisable. Le fait qu'il y ait peu de questionnements sur les devoirs et spécifiquement en plus sur le temps au cours duquel on donne les devoirs fait que finalement ces attentes elles ne ressortent pas parce qu'elles n'existent pas ou elles sont complètement enfouies finalement. Donc leçon, exercice quoi. On balance leçon, exercice. Alors par contre, ce qu'on peut mettre en évidence de voilà, et d'autres l'ont déjà fait, notamment voilà, Capo, Glassman aussi, etc. C'est le fait qu'il y a un impensé et qui explique peut-être le fait que cette prescription d'interdiction des devoirs écrits n'arrive pas forcément à être respectée, c'est que la problématique écrit-orale sous-jacente n'est absolument pas travaillée. C'est-à-dire que ce qui est dit quand même en filigrane, c'est qu'on ne donne pas de devoirs écrits parce que non-respect des rythmes chronobiologiques, c'est les deux arguments dans la loi, et construction des inégalités. Si on prend ces deux arguments-là, pourquoi s'applique-t-il un travail écrit et pourquoi pas un travail dit oral ? Voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est, voilà, mais tu l'as bien dit tout à l'heure, hein, qui est quand même quelque chose à mettre au travail de manière relativement forte. Et puis, également, en questionnant la relation entre ces dimensions orales et ces dimensions écrites. On peut se dire là que l'exercice, par exemple, peut servir d'étayage pour les parents, notamment, à l'apprentissage d'une leçon, et vice-versa. Voilà. Donc là, il y a tout un questionnement à avoir, et que les acteurs n'ont pas ou très peu, enfin, si ce n'est quelques-uns lors des entretiens, hein, mais relativement peu. Voilà. Mais on peut se dire, et ça, Kakpo, Rayou le disent très bien, hein, que l'apprentissage d'une leçon demande bien plus de travail, ou de compétences, y compris d'accompagnement, hein, qui vont avec, que le fait de réaliser un exercice, quoi.
Oui. Moi, je me posais la question par rapport au fait d'empêcher ou pas les parents de valider la correction. La difficulté, est-ce qu'elle réside pas aussi chez l'élève, dans le conflit de loyauté qu'il peut avoir entre des parents qui ne peuvent pas l'aider toujours autant qu'ils le souhaiteraient, et le fait de les mettre en difficulté. Ça pose effectivement, ben, évidemment, le problème des devoirs, mais ça pose aussi peut-être le problème des études dirigées, aussi par rapport aux enjeux. Moi, le travail, que ce soit le travail à la maison ou le travail personnel, le problème est de savoir s'il faut ou pas ce travail-là, et je pense qu'il le faut, le travail personnel, le travail de répétition, le travail de réinvestissement des élèves par rapport à des compétences à travailler. Et le problème, c'est de savoir quand est-ce que ce temps intervient, avec quelles interventions, et comment on évite justement, chez l'élève, le conflit qu'il peut y avoir dans le simple fait de faire ses devoirs. Est-ce que Mehdi je vais pas faire de la psychologie de café de commerce, mais est-ce que Mehdi a pas pris sa leçon de manière inconsciente, ou est-ce qu'il l'a fait plus ou moins parce qu'il savait que ça mettrait peut-être aussi les gens en difficulté? Ça, on sait pas. Et nous, enfin, particulièrement là où on est aussi confronté à ce genre de problème, et aussi par rapport aux différences de méthodes. Je pense qu'on a pris l'exemple de on, mais on peut prendre la méthode de la technique opératoire, notamment, c'est assez flagrant à ce niveau-là, de voir comment les parents voient ça avec leurs enfants et comment c'est appris institutionnellement. Alors, oui, je suis directeur d'école en REP+, à Oyonnax, voilà. C'était oui, alors on est sur le même réseau à Oyonnax, dans un groupe scolaire qui est dans un plus petit groupe scolaire pour une de mes collègues et dans un grand groupe scolaire de 360 élèves.
J'avais deux petites questions concernant les confrontations, si j'ai bien compris, qu'il y a dû avoir entre les enseignants, enfin la confrontation à parler d'échange plutôt, entre les enseignants et les parents, notamment lorsque vous avez dit qu'ils avaient des jugements, les enseignants, envers les parents. Comment ça s'est passé lorsqu'ils se sont rencontrés? Et la deuxième, est-ce que vous avez eu le temps de traiter la phrase que disent les enseignants concernant l'entraînement important en dehors de la classe? Est-ce que vous avez eu le temps de traiter ces questions, ou est-ce que les enseignants eux-mêmes ont eu le temps de creuser cette question-là?
Alors, sur la première question... la question des jugements lors des rencontres, elle a été travaillée en amont, c'est-à-dire que systématiquement, lorsque les acteurs se sont rencontrés, il y a eu un temps avant, par catégorie d'acteurs, où bon, mais j'ai amené, lorsque ça s'exprimait de manière un petit peu forte, je les ai amenés à réfléchir à comment positionner ça lorsqu'ils allaient rencontrer les autres acteurs. Voilà. Alors c'est pas évident à gérer, parce que du coup ça a créé un peu l'effet inverse, c'est-à-dire soit le fait de se censurer lorsqu'on était en présence des parents, ce qui posait aussi un certain nombre de problèmes, soit le fait parfois d'avoir une attitude très empathique, quoi. Ces pauvres parents, etc. Voilà. Mais en tout cas, les jugements ne se sont pas exprimés de la même manière que lorsqu'ils se retrouvaient notamment dans une situation individuelle avec moi. C'est là que les jugements ils sont ressortis. Voilà. La deuxième question, excusez-moi, c'était sur est-ce que ouais. Alors, ouais. Est-ce que ça a été plus particulièrement travaillé avec eux? Non. Enfin, moi, je l'ai pris comme une justification de leur point de vue. Après, si on les amenait à se justifier réellement, aller un peu plus loin, peut-être qu'il y aurait d'autres formes de justification. On en entend une là, mais ça passe un petit peu à la trappe là dans le montage. L'enseignant dit une des justifications pour lesquelles je donne des devoirs, c'est parce que je pense à mes collègues pour l'étude. Je sais pas si vous avez entendu ça. Vous voyez à quoi il fait référence? C'est le fait de, vu que ses collègues surveillent l'étude dans l'école en question, ben il faut occuper les enfants, quoi, lors de la situation. Mais non, ça n'a pas fait l'objet d'un travail plus approfondi que ça avec eux. Non.
Oui, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est comment les parents intègrent le fonctionnement de l'école et comment ils essayent, vraiment avec tous les moyens qu'ils peuvent, de pallier les implicites de l'école. Ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant et... à creuser, mais je pense que ça a été fait dans votre travail.
Je travaille sur un REP+ et deux REP, donc je me suis intéressée beaucoup aussi à cette question qui est, en tout cas dans le milieu dans lequel je travaille, fondamentale. Ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que à aucun moment, finalement, la question du pourquoi je donne des devoirs ou pourquoi est-ce que je donne du travail personnel en classe, elle n'est, enfin, à mon sens, traitée par l'enseignant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose pas cette question. Ça m'interpelle un peu. Et deuxième chose, moi aussi, je suis interpellée par cette mère, finalement, qui reflète très bien ce qu'on connaît, finalement, dans nos milieux populaires. C'est qu'il n'y a pas de remise en cause, vous l'avez souligné tout à l'heure, dans la non-demande de rendez-vous, par exemple, par rapport à l'enseignant, il n'y a pas de remise en cause de ce qu'est l'école et de comment on pourrait travailler avec l'école. Enfin, je veux dire que cette question-là ne semble pas, finalement, émerger.
Ah oui. Alors... Ce que vous pointez, c'est aussi des effets de dispositif, très très clairement. C'est-à-dire que effectivement, Et puis des effets de présentation aussi. Parce que l'ancrage en fait de ce travail, ça n'était pas forcément de partir de du pourquoi, de la justification, etc. Hein. Bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que très souvent, bon, on a des travaux un petit peu là-dessus, et si on le pose en termes de d'accompagnement des acteurs, etc., on aura effectivement un certain nombre de, si on leur demandait, là, je pense qu'ils ont plein, voilà, ils donneraient plein de justifications, voilà, mais qui s'éloigneraient peut-être un petit peu de la pratique telle qu'elle se met en œuvre au quotidien. Donc vraiment, l'ancrage là, c'était d'être au plus proche d'un point de vue presque phénoménologique. Logique, quoi, et de leur pratique. Ce qui fait que peut-être ces questions-là apparaissent moins que dans d'autres travaux ou comme on le ferait en formation très souvent, avec un ancrage plutôt praticien réflexif, etc. On essaie d'être au plus proche. Ce qui n'empêche pas que dans les, notamment les temps communs qu'on a pu avoir avec les enseignants ou les parents, etc., que ces questions aient pu être abordées. Mais dans la thèse, je l'ai pas plus analysé que ça, ce qui fait que j'y vais assez prudemment là-dessus. Mais bien entendu, en prenant le temps de la réflexion avec les acteurs, on peut se dire que c'est intéressant d'aborder ces questions plus globales du sens, etc. Mais avec juste peut-être de ma part en tout cas une réticence à les engager trop là-dedans tout de suite, parce qu'effectivement sinon on se retrouve avec un moment de formation très intéressant et d'un point de vue de la réflexion mais peu propice à la transformation en fait. Voilà.
Oui. Juste une petite réaction pour compléter, on y reviendra cet après-midi, mais on va un petit peu trop souvent trop vite en formation sur des visées transformatives ou expérimenter d'autres choses avant de prendre le temps de regarder ce qu'on fait déjà réellement. Et pourquoi on le fait. Voilà. Donc, ça me semble être une idée à retenir quand on parlera tout à l'heure cet après-midi des conceptions de formation.
Bien, bonjour, je m'appelle Isabelle Bordet, je travaille dans l'Académie de Caen sur un CAREP, un centre académique de ressources de l'éducation prioritaire. Voilà. Et cette question-là m'agite depuis une vingtaine d'années avec le même constat de la difficulté à le réfléchir ensemble. Moi, j'avais deux questions. Alors, une première question, c'est le retour des enfants. Vous avez utilisé des outils, enfin, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est aussi le premier qui est peut-être au cœur de l'affaire, c'est l'enfant. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est là, on est sur une activité du côté de l'école élémentaire, du côté collège. Est-ce que les mêmes choses, vous les avez aussi analysées avec les collègues du collège sur la même séance filmée? Et est-ce que vous avez effectivement des réactions très très différentes du fait de la formation? Puis juste au passage, moi je me réjouis quand même du prescrit, même si on en fait ce qu'on peut, d'avoir maintenant dans le nouveau socle commun un domaine 2 qui est le travail personnel de l'élève. Mmh. Et c'est quand même une sacrée avancée pour nous pour pouvoir... Alors je sais bien que le prescrit fait pas toujours évoluer le réel, hein. Voilà. Mais pour autant, c'est important, je crois.
Mais on a besoin d'un bon prescrit.
Mais on a besoin d'un bon prescrit pour travailler, quoi. Voilà.
Ouais. Il y a des dimensions que j'ai pas évoquées là sur le travail avec les enfants, notamment parce que c'est en cours et que j'ai pas encore traité tout ça. Mais j'ai tenté, alors non pas des auto-confrontations avec les enfants, mais j'ai fait des allo-confrontations, c'est-à-dire que je leur ai montré ces situations-là en leur demandant de réagir. Avec pareil deux objectifs, et c'est de voir s'ils se reconnaissaient dans cette situation-là, et puis également de voir ce que ça générait chez eux dans un premier temps, vu que c'est un peu expérimental, voilà. Ce qui, alors ça fonctionne assez bien d'un point de vue, si on le prend d'un point de vue de la formation ou l'aide à l'expression, à la verbalisation des enfants, ça a assez bien fonctionné chez presque tous les enfants. Ce qui m'a assez surpris, c'est qu'en fait, assez peu d'enfants ont exprimé de la souffrance vis-à-vis des devoirs, etc. Alors ça m'intéresse assez actuellement parce que je me dis, souvent on présente les devoirs sous cet angle-là, quoi, dans les problèmes que ça peut poser, la souffrance, la nuit, etc. Alors je remets pas en cause le fait que les devoirs peuvent être source d'ennui, voire de souffrance, etc. Hein, dans certaines situations. Mais en tout cas, ce que je peux constater à ce jour, c'est que la manière dont les enfants m'en parlent, bon, ça n'est pas ça. Alors, là aussi, peut-être qu'on a un effet de dispositif et qu'ils ne se permettent pas d'eux, enfin, bien qu'ils ont l'air de parler relativement spontanément. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose qui m'a assez marqué et qu'il faudrait vérifier, peut-être de plus près, notamment au niveau de l'école primaire, c'est que sur la quantité du travail, on a peu d'études récentes, en tout cas là-dessus, hein, sur... je ferai l'hypothèse que les enseignants ont pris en compte la question de la quantité du travail à l'école primaire. C'est-à-dire que les élèves ne... Alors, vous allez tous avoir un exemple, j'imagine, en tête de l'enseignant de CM2 qui donne une tonne de travail pour les préparer au collège. Mais globalement, a priori, le temps de travail n'est pas si conséquent que ça à l'école primaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les devoirs, mais ce qui m'amène à dire quand même que c'est plus d'un point de vue qualitatif et de ce qui se construit que les choses se posent, que d'un point de vue quantitatif. Au collège, c'est certainement différent. Et alors, pour répondre sur la question du collège, oui, il y avait des enseignants collège, sixième. Hein, de sixième, c'était dans le cadre d'un travail sur une liaison école-collège. Sixième et cycle 3. J'ai pas vu de différence fondamentale dans l'activité des enseignants. Alors, encore une fois, l'activité des enseignants dans le dispositif de formation. Je peux aller voir en classe, etc., ces enseignants. Mais en gros, dans ce qu'il en ressort, voilà. Une différence quand même, une spécificité, mais ça va pas vous étonner, c'est sur la question du travail collectif. C'est-à-dire que les enseignants disent que c'est pas évident de se coordonner au collège, mais ils disent aussi l'utilisation de plus en plus forte des outils, liés aux nouvelles technologies qui permettent justement de visualiser ce qu'ont pu donner les collègues, etc. Alors de là à dire que ça génère des transformations dans les pratiques, moi j'en dirais rien, parce que j'en sais rien, mais en tout cas ils disent que c'est une aide, pour eux c'est une aide à la coordination de leurs actions collectivement.
Oui, alors justement je suis principale de collège et je m'interrogeais sur la réaction des collègues en collège et notamment sur leur réaction face au travail de midi un peu qui pourrait être qualifié de superficiel parce qu'en collège quand on lit les bulletins et quand on assiste au conseil de classe c'est travail à la maison pas assez approfondi, doit approfondir son travail, doit passer plus de temps et une non prise en compte des enseignants que si l'enfant n'approfondit pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas en mesure, il n'arrive pas à le faire et qu'il n'a pas les outils. Donc c'est pour ça que j'aurais voulu avoir une réaction, savoir si vous aviez une réaction des profs de collège par rapport à l'attitude de Mehdi, qui visiblement est de bonne volonté, mais qui tout simplement sait pas, peut pas.
Ben, les réactions des enseignants, alors notamment ceux du collège, hein, c'est ils reconnaissent dans les attitudes de Mehdi des attitudes d'élèves qu'ils ont en classe, donc ça ils font du lien, mais par contre ça ne les amène pas à dire que c'est peut-être des effets des pratiques de classe. Hein, voyez la différence, c'est-à-dire que le voilà. Ah oui, Mehdi, ah, moi j'en ai des comme ça, en classe, ah oui, je vois complètement. Voilà. Mais ça va pas plus loin. Voilà.